MDM.
MDM, votre radio locale.
Depuis son arrivée au pouvoir datant des dernières années du XXe siècle, Vladimir Vladimirovitch Poutine entend maintenir une forme d'hégémonie sur le territoire de l'ancienne Union soviétique. Dernière illustration en date, durant la crise migratoire orchestrée aux portes de la Pologne en novembre dernier, Poutine a cherché à se poser en médiateur de cette crise. Il y a une semaine, nous apprenions que le chef du Kremlin lançait l'invasion de l'Ukraine, pays avec lequel la situation était tendue depuis un long moment. Des centaines de civils ont déjà perdu la vie, notamment à l'est, à Kharkiv, et Kiev résiste encore grâce notamment à sa population. Pour essayer d'éclaircir la situation et comprendre ce qui se joue au cœur de cette guerre en Ukraine, Olga Gilbelova, maîtresse de conférence au département d'études slaves de l'université Michel de Montaigne Bordeaux 3, a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Olga Gilbelova, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors nous aimerions éclaircir certains points de la guerre qui se déroule en Ukraine depuis bientôt une semaine. Pour commencer, peut-être pourrions-nous revenir sur la révolution orange de 2004 et celle de 2014, parce qu'elle me semble assez essentielle pour comprendre ce qui se joue actuellement dans le pays.
Oui, bonjour, merci pour cette invitation. Si on revient sur la révolution orange, il faut rappeler qu'il s'agit à l'origine de l'élection présidentielle qui se déroule à l'automne de 2003. Et il y a deux candidats à l'époque qui sont M. Yushchenko et M. Yanukovych. Et il y en a un qui est considéré plutôt comme un successeur au président en place, M. Kouchma, qui avait effectué déjà deux mandats auparavant et qui a plutôt le soutien de la Russie. Et un autre candidat, donc M. Yushchenko, qui lui se présente plutôt comme un candidat orienté vers l'Europe, vers plus de démocratisation, et qui est effectivement perçu, en tout cas par les Russes, comme en ayant un agenda qui éloigne l'Ukraine donc de la sphère d'influence russe. Il faut dire que cette élection est considérée comme extrêmement corrompue en faveur justement de successeurs de M. Kouchma, M. Yanukovych. Il faut dire qu'avant l'annonce officielle des résultats du second tour, il y a Vladimir Poutine qui félicite déjà Yanukovych pour sa victoire. Et justement, c'est la suspicion des fraudes qui ont pesé sur les résultats de cette élection qui va déclencher les grandes manifestations qui vont avoir lieu sur la place centrale de la ville de Kiev, la place Maïdan, et qui ont duré pendant plusieurs semaines, hein, provoquant une véritable crise donc constitutionnelle en Ukraine. En revanche, à l'époque, suite à ces manifestations massives et le soutien d'ailleurs de la communauté internationale, président Kouchma décide d'organiser un troisième tour d'élection. Et suite à ce troisième tour d'élection, finalement, c'est le concurrent, donc M. Yushchenko, qui va arriver au pouvoir. Et son arrivée au pouvoir va effectivement marquer le début d'une donc véritable émancipation de l'Ukraine, donc de la tutelle russe. Et ce qui va se passer en 2014 va être donc différent à quelques égards. Donc à l'époque, il ne s'agit pas du tout de l'élection présidentielle, mais il s'agit de l'annonce par M. Yanukovych, donc c'est le perdant de la révolution orange. Donc en 2004, qui est réussi donc arriver au pouvoir. Il a été élu comme président quelques années auparavant. Et en 2014, contrairement au processus de négociation sur l'accord d'association avec l'Union européenne, il va renoncer d'aller à la signature donc de cet accord qui a été prévu au mois d'octobre. Et c'est justement cette décision qui va déclencher de nouveau les manifestations très massives. Et cette fois-ci, il s'agit plutôt de confirmer justement ce choix pro-européen dans lequel les gouvernements précédents, notamment depuis M. Yushchenko, depuis la révolution orange, s'est engagé. Et la signature de ces accords d'association a été vue comme la formalisation donc de cet engagement pro-européen de l'Ukraine. Et suite à ces manifestations, il y a une crise majeure politique donc, qui est déclenchée en Ukraine. M. Yanukovych finit par démissionner et s'enfuir de l'Ukraine. Et c'est un gouvernement provisoire qui va arriver au pouvoir. Et par la suite, donc une nouvelle élection qui permettra d'arriver sur le poste de président, M. Porochenko, qui entre-temps a été remplacé par Zelensky. Mais on voit que, à ces deux reprises, c'est la société ukrainienne qui se mobilise pour contester soit les résultats des élections lors de la révolution orange, soit les choix géopolitiques du pays qui ont été pris par le président lors de Euromaïdan.
On sent bien, comme on le voit aujourd'hui, que le peuple ukrainien ne veut pas laisser son pays aux mains d'une forme de pouvoir qui n'aurait pas choisi. On sent aussi qu'il y a ce clivage entre pro-russe et pro-européen. Ça ressort fortement aussi aujourd'hui dans le conflit, dans la guerre qu'il y a en Ukraine.
Oui, tout à fait. Après, il faut souligner que la société ukrainienne n'est pas une société homogène. Donc, c'est d'ailleurs le système ukrainien est devenu très démocratique. Et il y a plusieurs mouvements politiques qui ont été représentés d'ailleurs depuis des années 2000. Certains ont été effectivement pro-russes. D'ailleurs, le président Yanukovych, il avait sa base de soutien plutôt dans les régions de l'Est, dans le fameux Donbass. Donc, c'était le parti des régions. Il faut dire que souvent, quand on présentait la société ukrainienne, on parlait souvent du clivage, justement le clivage entre l'Est et l'Ouest, depuis d'ailleurs le début des années 90. Ce clivage était particulièrement marqué lors des échéances électorales, que ce soit les élections présidentielles ou les élections parlementaires. Et ce clivage, il comportait plusieurs aspects. Il y a des aspects historiques. On ne va pas peut-être refaire l'histoire de l'Ukraine et revenir en arrière, mais il y a des parties de territoire qui ont été plutôt intégrées au sein de l'Empire russe, d'autres qui ont appartenu soit à l'Empire austro-hongrois, soit à la Pologne. Donc il y a déjà une histoire plutôt différente pour ces territoires. Et puis par la suite, il y a d'autres clivages, notamment les clivages socio-économiques qui se superposent entre l'Est qui est beaucoup plus industriel et l'Ouest qui était plus agricole. Il y a aussi ces clivages géopolitiques où les régions de l'Est ont eu toujours, assez naturellement, beaucoup de liens, beaucoup d'échanges avec la Russie. Donc, ce qui permet aussi de comprendre pourquoi une partie de la population de ces régions était effectivement en faveur de la coopération avec la Russie à l'origine et qui aujourd'hui est devenue qui a soutenu en tout cas le désir de rester proche de la Russie. Et l'usage de la langue russe, il ne faut pas oublier non plus ce facteur. Et de l'autre côté, il y a donc des parties de l'Ouest, des parties du centre de l'Ukraine qui ont été toujours plutôt en faveur de rapprochement avec l'Union européenne. Et la question de la langue est aussi très importante en Ukraine parce que on a introduit l'utilisation de la langue ukrainienne comme la seule langue officielle du pays. Et la place du russe, bien qu'il était assez présent jusqu'à ces dernières années, mais il y a beaucoup de lois linguistiques qui ont été adoptées depuis quelques années qui diminuent largement la place de la langue russe, notamment qui interdisent pratiquement son usage dans l'espace public. Et souvent, les acteurs pro-russes ont stigmatisé l'attitude du gouvernement ukrainien ou en tout cas ont utilisé cet argument pour notamment critiquer ce gouvernement de son attitude plutôt discriminatoire vis-à-vis des minorités russes. Et cet argument a été aussi instrumentalisé par la suite par Poutine.
Il y a un autre argument que Poutine utilise aujourd'hui et que Yanukovych avait utilisé en 2014. Yanukovych comparait ses opposants aux nazis des années 30. Et aujourd'hui, donc, on entend Vladimir Poutine parler des néo-nazis qui sont en Ukraine. Pourquoi c'est cet argument qui revient et sur quoi ça repose?
En réalité, il y a certains mouvements néo-nazis qui sont réémergés à partir des années 90 et surtout dans les années 2000, mais c'est un phénomène qui est courant dans d'autres pays européens. Il y a effectivement ces groupuscules néo-nazis, mais dans l'argumentaire de Poutine, il y a une assimilation entre ces mouvements qui restent minoritaires et le gouvernement ukrainien qui est déclaré comme en quelque sorte l'ennemi de ces néo-nazis, ce qui est une exagération. Pourquoi aussi l'utilisation de cet argument? Il faut savoir que lors de la Seconde Guerre mondiale, les Ukrainiens ont été divisés. Il y a une partie des Ukrainiens qui a combattu dans les rangs de l'armée soviétique contre l'invasion allemande, mais il y avait aussi une partie des Ukrainiens qui ont combattu effectivement dans les rangs de de l'Allemagne. Il y avait une division spéciale SS Galicina, donc qui combattait de côté des Allemands. Et les descendants de ces Ukrainiens ont immigré suite donc après la Seconde Guerre mondiale, et leur vision donc du conflit a été effectivement donc plutôt différente, et la référence donc utilisée par Poutine fait amalgame entre ces différents éléments pour les instrumentaliser et les détourner complètement si vous voulez des réalités.
Il s'agit donc de l'un des principaux arguments utilisés par Vladimir Poutine pour justifier son invasion en Ukraine. Positionnée depuis longtemps aux frontières des anciennes républiques de l'Empire soviétique, la Russie, en la personne de son président, entend conserver une forme de domination sur ses territoires, nous explique Olga Gilbelova.
Si on regarde dans une perspective beaucoup plus large les actions de la Russie, elle a toujours cherché à garder le contrôle sur les pays voisins, et on peut parler même d'une forme de déni de souveraineté de ces pays, parce qu'il y a une véritable difficulté de la part des dirigeants russes de reconnaître à ces États qui sont apparus suite à l'éclatement de l'Union soviétique le droit de faire leur choix souverain, et y compris celui de s'éloigner de la Russie et de choisir d'autres partenaires. Donc là, je pense que le cœur du sujet, il est véritablement là. Et puis la Russie a souvent utilisé ce type de conflit, que ce soit en Géorgie avec le soutien à deux républiques autoproclamées, Abkhazie et Ossétie du Sud. Donc il a utilisé le même schéma avec ces deux républiques de Donetsk et de Luhansk qui se sont autoproclamées dans l'est de l'Ukraine, dont il a reconnu l'indépendance au préalable de son action d'invasion du territoire ukrainien. Donc il s'agissait toujours pour la Russie plutôt d'affirmer sa puissance sur cette région. Et en revanche, il faut dire que peu d'experts ont prévu une action aussi hostile à l'égard de l'Ukraine. À l'origine, la demande de Poutine, c'était la reconnaissance par le gouvernement ukrainien de la perte de la Crimée, de son rattachement à la Russie, et on s'en doutait également que déjà dans les faits la Russie est présente et l'a soutenue, donc les mouvements sécessionnistes dans l'est de l'Ukraine, et il allait en quelque sorte officialiser sa présence dans ces régions. En revanche, peu de monde a prévu une attaque aussi violente sur l'ensemble du territoire ukrainien.
Pour préparer cet entretien, j'ai effectué quelques recherches et me suis appuyée entre autres sur une interview des Matins de France Culture. Olga Gilbelova y était invitée aux côtés de Jacques Rupnik, historien et politologue, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, directeur de recherche à Sciences Po Paris. Dans cet entretien datant du 18 novembre 2021, la maîtresse de conférence expliquait que, je cite, « Poutine n'est pas du tout prêt pour de grandes aventures géopolitiques comme c'était le cas avec l'intervention en Syrie », une affirmation qui pourrait se vérifier avec ce convoi militaire colossal en route pour prendre Kiev, finalement stoppé par manque d'essence ou de nourriture.
Après, je ne suis pas expert en stratégie militaire. en revanche, ce qu'il faut dire, que jusqu'à présent, la Russie a mené, si vous voulez, les opérations militaire éclair, donc très rapide. Par exemple, en Syrie, c'était juste des avions qui bombardaient. Quand il y a eu la guerre avec la Géorgie, donc c'était la guerre de 5 jours où effectivement sa force militaire était assez écrasante. Et en tout cas, la Russie n'était pas prête à ses actions justement sur le terrain. Et là, on peut faire le parallèle avec la fin de l'époque soviétique et cette guerre en Afghanistan que l'Union soviétique déclare, en fait, dans laquelle il s'engage en 79, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a une forme de risque d'enlisement sur le terrain, et surtout quand il y a une réaction hostile de la part de la population en mobilisation contre la présence ennemie. Et c'est beaucoup plus difficile de gagner ces guerres, c'est quasi impossible. Et puis quand je parlais aussi de ces difficultés, je pensais à autre chose, parce que la société russe, elle est quand même, on a très, très bien vu le clivage. Il y a quand même beaucoup de Russes qui sont opposés à cette guerre, qui trouvent qu'elle est parfaitement, totalement injustifiée. Donc il n'y a pas du tout de soutien à cette action militaire inconditionnelle de la part de la population russe. Et surtout, la répercussion économique va être aussi très, très grave. C'est la population russe qui va la subir. Et d'ailleurs, quand je vous disais tout à l'heure que beaucoup d'experts n'ont pas prévu une telle donc, invasion du territoire ukrainien, parce qu'ils se basaient sur la rationalité. Et il n'est absolument pas rationnel pour le gouvernement Poutine d'aller s'enliser dans une guerre en Ukraine de cette ampleur-là. Donc en revanche, là, on a l'impression que ce n'est plus du tout les facteurs rationnels qui pèsent dans ces décisions. Donc c'est extrêmement irrationnel. Et d'ailleurs, quand on écoute les discours de Poutine qui étaient prononcés justement à l'occasion de cette invasion, on se rend compte à quel point il est enfermé dans une vision datée du XXe siècle et très revancharde, donc où il essaye d'imposer ou de recréer le monde, mais qui n'existe plus depuis au moins une trentaine d'années. Et donc ce déni de la réalité est assez frappant.
Au cours de cette même interview, Jacques Rupnik expliquait que la Russie, en s'installant aux frontières des pays d'Europe de l'Est, notamment en Ukraine, maintient une instabilité et disqualifie les 10 pays pour une candidature plausible à l'entrée dans l'OTAN et dans l'Union européenne parce qu'ils ne contrôlent pas leurs frontières, avec, en ligne de mire, le maintien d'une forme d'influence dans la zone de l'ancienne Union soviétique.
Oui, tout à fait, mais il s'agit là d'entrer dans un débat de quelques décennies sur l'espace de sécurité européen. Donc c'est l'argument qui est utilisé par Poutine ou par son ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, c'est le fait que l'OTAN a continué d'exister malgré la dissolution de Pacte de Varsovie, qui était donc une alliance militaire datant de la guerre froide, donc, de côté de l'Union soviétique et de ses alliés. Et il est vrai que Gorbatchev, à l'époque, quand il a accepté la dissolution du pacte de Varsovie, espérait que l'OTAN soit dissous aussi, donc un petit peu comme la fin logique de la guerre froide. Donc l'OTAN a perduré son existence et en plus, il a procédé à plusieurs élargissements. Et c'est vrai que cette vague d'élargissement se poursuit, notamment avec la demande de la Géorgie et de l'Ukraine, d'ailleurs qui n'est pas nouvelle, qui a été faite déjà dans les années 2000, de rejoindre l'OTAN et de rejoindre donc l'Union européenne. Ce qui a changé entre-temps, c'est que ces objectifs ont été inscrits notamment dans la constitution de l'Ukraine. Donc, d'ailleurs, quel que soit le président qui est élu en Ukraine, il s'engage donc à poursuivre ce désir exprimé de rejoindre l'Union européenne. Ce qui est d'ailleurs rappelé régulièrement en ce moment par le président Zelensky, mais aussi l'OTAN, mais effectivement, ça signifie pour la Russie donc une retraite stratégique dans cet espace qu'elle considère effectivement toujours comme son espace d'influence naturelle. Et il y a cette difficulté des dirigeants russes de reconnaître donc les réalités géopolitiques en Europe qui ont beaucoup changé et qui ne correspondent pas à l'image fantasmée qu'ils ont de cette Europe où la Russie reste toujours une grande puissance qui peut imposer sa volonté aux États voisins.
Justement, dans ce conflit, quel rôle doit jouer l'Union européenne selon vous ?
Ben aujourd'hui, justement, l'Union européenne est sommée en quelque sorte de passer aux actions beaucoup plus importantes de soutien du gouvernement ukrainien. Il y a eu entre-temps la signature du fameux accord d'association. Donc il y a aujourd'hui donc ce statut d'État associé à l'Union européenne dont dispose l'Ukraine. Le président Zelensky demande aujourd'hui donc plutôt l'adhésion, donc aller plus loin dans ce processus, parce qu'il voit ça comme une forme de garantie contre l'invasion russe. En revanche, pour l'instant, tous les pays de l'Union européenne sont d'ailleurs remarquablement unis pour donc apporter son soutien au niveau des sanctions ou d'aide justement d'acheminement des équipements militaires vers l'Ukraine. Mais d'ailleurs, j'ai écouté aujourd'hui ce matin une émission en France Culture où on disait, mais si on pose la question d'adhésion de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, ça risque de nouveau de réveiller les clivages à l'intérieur des pays de l'Union européenne, parce qu'il faut savoir qu'il y a certains pays qui poussent depuis longtemps pour l'adhésion justement de l'Ukraine, comme par exemple la Pologne ou les Pays-Baltes, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus réticents. Il est vrai qu'auparavant, ces réticences étaient liées au fait qu'il ne fallait pas fâcher la Russie, sauf qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il faut quand même trancher dans ce débat. Il faut fournir non seulement le soutien économique ou symbolique, mais peut-être aller plus loin. Mais c'est un véritable défi. Et donc l'Union européenne est face à cette épreuve.
L'Union européenne apparaît donc clairement comme une alliée de l'Ukraine et depuis quelques jours, nous entendons parler d'une future participation du Bélarus dans ce conflit armé, une participation en faveur de la Russie, mais c'est autre chose qui se trame. Olga Gilbelova, maîtresse de conférence au département d'études slaves de l'université Michel de Montaigne, nous explique.
on voit que la Biélorussie a définitivement perdu toute son indépendance, toute sa souveraineté. Donc c'était un processus donc, qui est déjà en place depuis longtemps. Mais là, on a vu clairement que Poutine a utilisé le territoire biélorusse pour positionner ses armées, pour préparer l'attaque. Donc, au fond, Alexandre Loukachenko n'a plus aucun mot à dire. Donc il est entièrement intégré dans les stratégies de Vladimir Poutine. De toute façon, tous les accords qui ont été signés. D'ailleurs, il y a eu un référendum qui est passé quasi inaperçu dimanche dernier, le 27 février, en Biélorussie, par lequel on a adopté les modifications de la Constitution, qui sont en partie copiées sur les modifications qui ont été adoptées en Russie donc en 2020. Et parmi ces modifications, il y a notamment celle qui... par lequel le Biélorussie renonce à son statut de pays neutre de point de vue nucléaire, qu'il a adopté donc encore en 1994, et surtout aux égards des conséquences de la notamment de la fin de la guerre froide. Cette modification constitutionnelle permettra notamment à la Russie de positionner les armes nucléaires sur les territoires biélorusses. In fine, aujourd'hui, ce pays n'a plus, donc sa souveraineté reste purement formelle, mais elle a définitivement perdu toute marge de manœuvre vis-à-vis de la Russie.
Comment ça se fait que ce soit passé autant inaperçu?
Parce que tout le monde parle de la guerre en Ukraine.
Ouais. Oui, mais du coup, ça fait partie de cette guerre-là, le fait de changer cette constitution en ce sens.
En fait, c'est un processus un petit peu plus qui remonte à 2 ans, en 2020, quand il y a eu la crise politique en Biélorussie avec ses contestations massives de la réélection d'Alexandre Loukachenko, très contesté. À l'époque, Vladimir Poutine a apporté son soutien, et c'est grâce à ce soutien que Loukachenko a réussi donc se maintenir au pouvoir. En contrepartie, il lui demandait de procéder à une réforme constitutionnelle. Et Loukachenko a essayé donc de traîner un petit peu les pieds pour mettre en place ce projet de la réforme constitutionnelle, parce qu'il savait très bien qu'il signait en réalité la fin de toute souveraineté biélorusse. Mais il a failli par faire des concessions. Et finalement, donc c'est aujourd'hui, en 2022, que... ce fameux référendum constitutionnel a été mis en place. D'ailleurs, quand on parle de référendum constitutionnel, il s'agit en réalité d'une nouvelle constitution parce qu'il y a plus de 83 articles qui sont modifiés. Il y a un nouveau chapitre qui est ajouté, 11 nouveaux articles. Donc il s'agit pratiquement d'une nouvelle constitution.
Et est-ce qu'on a une idée, Olga Gilbelova, de pourquoi c'est maintenant? Pourquoi Vladimir Poutine a décidé de lancer cette guerre maintenant?
Pourquoi maintenant? Parce que là, on est quand même dans une spirale d'accroissement des hostilités depuis longtemps. Après, les facteurs, personne n'est dans la tête de Poutine, donc c'est difficile à dire pourquoi il a fait ce choix. Mais il est vrai que la situation économique en Russie est stagnante depuis 2013. Hein. Il est vrai que la popularité de Poutine était beaucoup liée au rattachement de la Crimée. Il faut rappeler que la population russe à l'époque a plutôt approuvé cette décision de rattachement de la Crimée. La guerre en Syrie était aussi un grand succès géopolitique de la Russie qui a permis de la repositionner comme une grande puissance sur la scène internationale. Et d'ailleurs, ce désir de revanche, donc de redonner à la Russie une place importante sur la scène internationale, était une des grandes promesses de Vladimir Poutine quand il est arrivé au pouvoir en 2000. Donc là, c'est plutôt logique. Il y a eu plusieurs actions, justement, dans les pays voisins, plusieurs interventions... Depuis les dernières années. C'est logique que l'Ukraine était quand même dans le viseur russe. Il y avait aussi une forme de confrontation symbolique et verbale entre le gouvernement ukrainien et le gouvernement russe parce que Volodymyr Zelensky et le gouvernement ukrainien ne reconnaissent toujours pas donc l'annexion de la Crimée et ils ne reconnaissaient pas non plus donc la présence russe dans le soutien russe aux régions sécessionnistes et le gouvernement ukrainien revendiquait le retour de ces territoires. Et pour Poutine, il s'agit aussi d'une forme d'action punitive pour affirmer ou pour se mettre en tout cas le gouvernement ukrainien en l'obligeant de reconnaître la perte de ce territoire. Mais là, Poutine va beaucoup, beaucoup plus loin que probablement ce désir initial de faire soumettre ce gouvernement. Il veut carrément renverser le gouvernement ukrainien, mettre en place un gouvernement pro-russe, mais ce qui va être extrêmement difficile, voire impossible, compte tenu de la mobilisation de la société ukrainienne, qui a été déjà soudée d'ailleurs depuis Euromaïdan, et le sentiment anti-russe était assez, assez important, mais aujourd'hui, la Russie est vue véritablement comme un occupant qu'il faut combattre.
Un occupant que l'on combat effectivement. Nombreuses et nombreux sont les civils qui ont pris les armes ou qui fabriquent des cocktails Molotov pour repousser l'ennemi. D'autres, en revanche, ont fait le choix de quitter le pays. Mardi 1er mars, ce sont plus de 660 000 Ukrainiennes et Ukrainiens qui avaient déjà traversé les frontières moldaves ou polonaises. En parallèle de ces départs, des blocages, d'après la BBC, une quantité incroyable de témoignages de personnes racisées expliquent être bloquées aux frontières sur ordre des autorités ukrainiennes et polonaises, priorisant le départ des personnes blanches. Nous en avons discuté avec Olga Gilbelova.
Le mot d'ordre serait priorité aux Ukrainiens et Ukrainiennes blanches. Qu'est-ce que ça raconte sur la politique de ces pays et ce tri aux frontières en temps de guerre ?
On pourrait faire aussi le parallèle entre la réaction justement de la Pologne sur la crise migratoire qui a eu lieu en automne sur la frontière biélorusse, où on a vu s'ériger un nouveau mur pour empêcher l'arrivée de ces personnes qui est originaire effectivement plutôt du proche Moyen-Orient, et aujourd'hui donc un accueil très chaleureux de ces populations ukrainiennes en fuite. Parce qu'il s'agit effectivement des populations ethniquement très proches. Donc là, j'avoue qu'il y a un très fort malaise dans cette réaction de la Pologne et de l'Union européenne qui soutient, bien entendu, la Pologne, parce qu'il y a quand même aujourd'hui une forme de consensus sur la nécessité d'accueillir donc l'ensemble de ces populations ukrainiennes en fuite. Et j'avoue qu'effectivement, c'est un sujet qui, moi, personnellement, me mettrait mal à l'aise.
Ça me paraît assez surréaliste comme situation.
Oui, tout à fait. Les images médiatiques, si vous comparez les images médiatiques de deux crises migratoires, ils sont assez frappants dans les réactions de l'Union européenne. Visiblement, les droits de l'homme ne s'appliquent pas à tout le monde. Mais après, il faut dire que quand même la crise migratoire va être beaucoup plus importante de par son ampleur que la crise migratoire qui a été déclenchée par l'intervention en Syrie. Donc aujourd'hui, on parle presque de prévision, pronostic. En tout cas, l'ONU parle de 4 millions, donc estimation de 4 à 4 millions de nombre des personnes qui risquent de venir au sein de l'Union européenne. Il faut rappeler aussi que au moment de la crise politique en 2013-2014, il y avait plus d'un million d'Ukrainiens qui ont émigré à l'époque vers la Russie, justement qui fuyaient les régions de l'Est. À l'époque, il est vrai que la société ukrainienne est aujourd'hui à l'épreuve aussi de ces grandes vagues migratoires. Et on ne sait absolument pas comment les situations vont évoluer, quelle est la partie de la population qui va pouvoir rentrer. Mais ces phénomènes migratoires risquent aussi de modifier, en tout cas, la situation dans cette région.
Des phénomènes migratoires et des sanctions également susceptibles de modifier la situation. On l'a vu, l'Union européenne et l'Occident en général se sont mobilisés pour établir très rapidement des sanctions économiques à l'encontre de la Russie qui auront finalement un impact plus large.
Oui. Après, les sanctions, ils vont avoir un impact autant sur la vie des Russes que la vie des Européens. Il y aura même répercussions au niveau international, parce que c'est surtout les prix de toutes les matières premières, qu'il s'agisse du pétrole, du gaz, des métaux ou du blé, qui vont augmenter. Donc ça risque d'avoir pas mal d'impact. Il faut rappeler que la population russe est quand même très résiliente. Donc elle a vécu plusieurs crises depuis longtemps, donc il va se résigner. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de possibilités de contester ce type de décision, à part écrire les pétitions qui circulent assez largement, parce qu'on a très bien vu que depuis de deux dernières années, la répression politique en Russie était féroce contre l'opposition et contre toute justement manifestation d'une opinion divergente avec celle du gouvernement. Cet impact des sanctions va être beaucoup plus difficile en quelque sorte à gérer du point de vue politique dans d'autres pays qu'en Russie, où la population ne peut pas contester ouvertement.
Merci beaucoup Olga Gilbelova pour votre temps et toutes ces explications.
Merci à vous, Margot.
MDM, plus proche de chez vous.